Alors, je vais prendre un autre exemple pour montrer, pour bien montrer de quoi il s'agit lorsque l'on réécrit, que l'on recodifie le code sans avoir l'air d'y toucher. C'est l'exemple du repos dominical, hein, donc du fameux débat, enfin le travail le dimanche, qui est beaucoup en débat actuellement. Alors, dans le code actuel, dans l'article L221-9, par exemple, donc un article de loi, cet article autorise certaines professions à ouvrir de droit le dimanche, donc à faire travailler leurs salariés le dimanche. Alors, évidemment, hein, c'est les musées, c'est les hôpitaux, c'est les hôtels, cafés, restaurants, donc c'est tout ce qui est ouvert le dimanche classiquement. Et vous avez l'article suivant qui dit en gros que des décrets définiront des secteurs pour lesquels il sera aussi autorisé d'ouvrir le dimanche. Mais le texte dit, attention, ne seront admis à ouvrir le dimanche par décret que, alors, un, les industries où sont mises en œuvre les matières susceptibles d'altération très rapide, donc on voit bien le but qui est là, on ne peut pas arrêter une production comme ça parce que ça risque d'altérer très rapidement des choses, et deux, les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. Donc c'est un peu la même logique. Je ne peux pas fermer ma boîte parce que le produit en cause, on ne peut pas s'arrêter de travailler, il faut de la maintenance. Voilà, par exemple. Par exemple, alors bon, après. Donc cet article renvoie à plusieurs décrets donc, qui ont autorisé certaines branches extrêmement limitées à ouvrir le dimanche et à faire travailler leurs salariés le dimanche. Mais on voit bien que les critères là sont extrêmement serrés. Hein. Soit c'est prévu dans la loi, donc hôtel, café, restaurant, bon, classique, soit on autorise par décret, mais attention, en respectant ces deux principes-là. Maintenant, la nouvelle rédaction de ces deux articles-là, ça donnait un seul article, donc c'est l'actuel article L3132-12, puisque maintenant, avec la recodification, c'est une, il y a quatre chiffres maintenant dans les articles. Alors cet article dit, certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par, alors écoutez bien les critères, les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. Donc pourront de droit déroger à la règle du repos dominical, etc. Ce sera soumis par décret. Donc on voit bien là que les critères ont changé. Les critères d'admission au travail le dimanche sont considérablement élargis. Là où auparavant on avait des professions strictement délimitées, les hôtels, les transports, enfin, les musées, etc., ou alors des secteurs où sont mises en œuvre les matières susceptibles d'altération ou les risques pour les produits en cours de fabrication, donc des choses qui étaient extrêmement strictes, qui étaient extrêmement cadrées. Maintenant, on n'a plus que le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité. Alors, ça, c'est général, c'est même pas expliqué. Et on rajoute aussi les besoins du public. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise ou une profession arrivera à démontrer que le fait qu'ils ne travaillent pas le dimanche, ça porte préjudice au public, ce qui est très facile, parce qu'ils vont faire des sondages, ils vont faire toute une campagne, etc., ils vont réussir à le prouver très facilement. Donc les critères d'ouverture dimanche sont considérablement élargis. Donc là aussi, c'est un autre exemple que le droit constant, là, il n'est pas, pour le coup, respecté. Mais après, bon, le simple fait, hein, comme je disais tout à l'heure, de déclasser des articles de L en R, ce n'est pas le rôle du gouvernement de choisir quel article de loi doit être passé en décret. Ne serait-ce que ça, c'est évidemment antidémocratique. Alors, il y a autre chose d'important qui est souvent aussi soulevée par les gens qui s'intéressent à ça, c'est que l'ensemble des formules impératives ont été retirées au profit du présent de l'indicatif. C'est-à-dire qu'on a réécrit aussi les textes, alors toujours hein, dans le but affiché de les rendre plus clairs, plus compréhensibles. C'est-à-dire que là où auparavant on avait l'employeur est tenu de, ou l'employeur doit, alors l'employeur doit consulter le comité d'entreprise sur telle et telle question, en prenant des décisions, doit consulter, est tenu de consulter les délégués du personnel. Maintenant, on n'a plus que le présent. L'employeur consulte le comité d'entreprise. Donc effectivement, la portée de l'obligation, elle est de fait amoindrie. Alors, pour se défendre, les recodificateurs ont expliqué que le présent de l'indicatif avait aussi une valeur impérative. Bon, bah, c'est un peu de l'exégèse grammaticale, ça. Mais c'est sûr que pour l'utilisateur, pour le salarié ou le syndicaliste, quand il y a marqué l'employeur est tenu de, c'est clair. Avec le présent, ça l'est beaucoup moins. Mais cette règle-là n'a pas été appliquée pour tout le monde. Sur le fameux exemple que j'expliquais tout à l'heure sur l'obligation des salariés mis parallèlement à l'obligation des employeurs, en tout cas mis au même chapitre et mis sur le même plan, là il y a bien marqué « il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa santé et de celle des autres ». Donc là il incombe. Hein, autre exemple. L'article L5411-6, là, qui concerne les devoirs, les obligations des demandeurs d'emploi, les obligations, il y a marqué « Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. » En gros, sinon, c'est la radiation, les sanctions, etc. etc. Donc, il y a quand même certaines obligations qu'on a su rappeler. Et certaines formulations impératives qu'on a su maintenir.
Suivant les cas.
Suivant les cas, voilà.
Ici, sur l'éclatement du salariat, est-ce qu'il y a des choses précises? Parce que le projet qui est plusieurs codes du travail, est-ce qu'il y a des
échéances? Ce sera pas plusieurs codes du travail, ce sera plusieurs codes par secteur d'activité. Alors les lois vont rester, mais elles seront transférées dans d'autres codes, dans d'autres livres.
Mais ça a vocation à ce qu'elles soient différentes, non ?
Ah bah on ne sait pas dans quel état on va les retrouver après. C'est toujours pareil, on ne sait pas comment elles seront réécrites. Et on ne sait pas surtout les évolutions qu'il y aura derrière, parce qu'à partir du moment où on commence à mettre un code rural, par exemple, avec les salariés agricoles, on va trouver tout un tas de spécificités aux salariés agricoles pour justifier derrière des dérogations au droit commun ou des conditions de travail plus pénibles ou des flexibilités accrues, etc., etc. Parce que l'argument qui a été, ce qui est aussi important à comprendre, c'est que l'argument qui a été avancé par le gouvernement ou qu'on entend très souvent sur le code du travail en disant c'est trop complexe, c'est très long, il y a beaucoup d'articles, on s'y perd. Le code du travail, pourtant, les règles essentielles sont, c'est une dizaine de règles qui sont finalement simples. Ce qui l'a rendu compliqué, le code, c'est l'ensemble des mesures dérogatoires au droit commun qui figurent depuis des années et des années. Par exemple, sur la durée du travail, quand elle est passée à 35 heures, on a fait tout un tas de dérogations. Avec les modulations, les régimes RTT, le travail par cycle, etc. On a organisé tout un système dérogatoire pour arriver à ces 35 heures. Hein, parce que tout le problème était de les savoir comment on les compte. Est-ce qu'on les compte à la semaine? Est-ce qu'on les compte au mois? Est-ce qu'on les compte à l'année? Donc tout, par exemple, l'annualisation du temps de travail, c'est un mode dérogatoire. Et tout ça, c'est des textes qui l'ont organisé. Donc c'est venu complexifier la règle commune. Sur les contrats de travail, pareil. Le CDI est venu dans les années 70, le contrat de travail temporaire, après le CDD, donc des choses qui ne vont pas forcément dans le sens d'une amélioration du statut des travailleurs, mais on est dans la dérogation permanente au droit commun. Ce qui a complexifié le code du travail, c'est ça, c'est tous ces ajouts de textes dérogatoires qui se sont empilés les uns sur les autres. Et ça, parce qu'il ne faut pas croire que ce n'est pas parce qu'on prend des lois sur le travail et qu'on les ajoute dans le code du travail que c'est nécessairement progressiste. Hein, et là, c'est tout le sens de ces dérogations qui sont continuelles. Donc le MEDEF a beau dire c'est compliqué, c'est complexe, etc. C'est complexe parce que lui, il l'a demandé et lui, il l'a obtenu. Hein, l'annualisation du temps de travail, la modulation, ça n'a pas été demandé par les organisations syndicales. Hein, voilà, si on en revenait, moi je serais pour aussi qu'on en revienne à un code du travail très simple, hein, pour éviter ces dérogations, notamment sur les heures supplémentaires, ces dérogations en termes de... Il crée des contrats de travail tous les 4 matins. Alors là, il y en a un nouveau là, qui va entrer en vigueur, le contrat de mission. Ça aussi, c'est quelque chose qui aurait vocation à rentrer dans le code du travail, donc qui va encore plus complexifier la chose. Donc dire qu'on va simplifier le droit du travail, par nature, c'est faux, parce que... Ce qui fait le droit du travail, ce qui fait l'évolution de la réglementation, ce sont des rapports de force entre des intérêts divergents et nécessairement contradictoires.
Là, le parler du contrat de mission, il avait été évoqué à un moment donné, là on en reparle, est-ce que c'est avec la recodification ou c'est avec la modification?
Alors ça, c'est suite à l'accord national, enfin l'accord interprofessionnel qu'il y a eu entre le MEDEF et quatre syndicats dits représentatifs. le 11 janvier, le 11 janvier dernier. Donc ça, c'est aussi, bon, ça va passer de, c'est, le résultat de cet accord va passer devant le Parlement, et ce seront encore des lois sur le travail, donc, qui vont être ajoutées au nouveau code du travail. Hein, alors ça concerne tout un tas de choses, et notamment ce contrat de projet qui est réservé dans un premier temps, hein, mais ça va s'appliquer à tout le monde après. On sait comment ça fonctionne. Hein. Ça va s'appliquer donc aux ingénieurs et cadres. Bon, ben c'est un CDD de mission pour réaliser un projet précis. Voilà, c'est un CDD entre 18 mois et 36 mois. Donc on crée des contrats précaires. Là où avant, ou dans des secteurs, ou dans des professions, où qui en étaient relativement épargnés. Les ingénieurs et cadres étaient relativement moins précaires que les gens qui accumulent les CDD ou les missions d'intérim. Mmh. Donc on crée aussi, là encore, de la précarité là où elle n'existait pas.
Oui, on sait que, quand il en avait été question une première fois, je sais qu'il y avait beaucoup de mobilisation vers les informaticiens, des choses comme ça.
Oui, ben là, ils ont commencé, ils commencent aussi à se mobiliser, à se réveiller un peu par leurs organisations.
Il s'appelle plus pareil, en fait.
Ouais.
Et il y a là aussi l'allongement de la durée de la période d'essai aussi.
Oui, ça fait partie. Les périodes d'essai, donc maintenant, sont légalisées. Et alors, je ne sais plus très bien. Là, si tu veux, on fera une deuxième partie. Ouais. Parce que là, j'ai pas encore les. On n'a pas les textes. On n'a pas les textes tels qu'ils vont arriver, quoi. On a l'accord, c'est-à-dire qu'ils vont passer de 2 mois à... Ils vont pouvoir aller jusqu'à 3 mois pour un ouvrier. Et après, moi, je ne sais plus, mais ça pourra aller jusqu'à 1 an pour un cadre, je crois. Mais bon, ça, il faudra attendre le... Parce que ça va passer à la moulinette du Parlement, ça. Donc on ne sait pas comment ce qui va en résulter. Mais ce contrat de projet, c'est ce qu'il y a aussi sur la résolution, la rupture à l'amiable, là, toutes ces questions-là.
C'est dans le même paquet, ça.
Ça, c'est dans le même paquet, oui. C'est dans le même paquet.
Oui.
Ce sera...
Le divorce, oui.
Voilà, comme le divorce. Voilà. On est à égalité et tout va bien.
Oui, donc, en termes de... Oui, tout ce que tu disais, pour un petit peu pour le combattre, il faudrait multiplier un petit peu les débats comme celui où il y a eu avec Filoche.
Voilà.
Ça comprend un petit peu les notions, les idées qui sont dedans.
Pour s'approprier, oui, progressivement. Et puis, c'est aussi aux organisations syndicales, déjà, elles, de s'approprier le nouvel outil, parce que ça ne va pas être évident pour ces acteurs-là non plus. Alors nous aussi à l'inspection du travail c'est pareil, hein, on va avoir prévu des formations pour que l'on s'approprie le nouvel outil que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui complètement, hein, donc c'est ça qui est incroyable. Alors évidemment il faudrait que les organisations syndicales s'en saisissent et portent un petit peu aussi le débat ou les mobilisations sur ce thème. Faut pas se dire que c'est quelque chose de technique parce qu'on comprend très bien les évolutions qui peuvent arriver derrière.
Justement, je sais pas si tu as des réponses là-dessus, mais dans la mesure où ça a commencé en 2004, tu disais, le débat. Hein.
Enfin, le
travail. Quoi.
Voilà, le travail a commencé en 2004. Oui.
Et donc, il y avait le comité de syndicalistes.
Oui.
Oui. Pourquoi il n'y a pas eu à un moment donné de hola ou de...
Alors ils ont si ils ont essayé de... Il y en a eu un au moment de la campagne présidentielle, puisque on avait dit tout à l'heure que l'ordonnance du 12 mars 2007, oui, c'est en pleine campagne présidentielle. Donc la partie législative du nouveau code du travail était prête en pleine campagne législative. On a réécrit le code du travail présidentiel, le code du travail en pleine campagne présidentielle sans qu'on ait rien entendu dans les médias, dans le silence général. Les syndicats ont fait quand même ont pris une position commune pour demander à ce que l'entrée en vigueur soit soit différé, donc ce qu'ils ont obtenu. Donc ils avaient fait une lettre commune au gouvernement, mais bon, sortie de prise de position, de déclaration comme ça, ça n'a pas été plus loin. Enfin, l'effort n'a pas été plus loin.
Oui, c'est ça, il n'y a pas eu une mise en avant d'un
projet. Non, ou... non, non.
Et il y avait pour autant la conscience qu'il y avait un danger.
Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, moi, je le vois bon, au niveau de mon organisation syndicale, il y a des papiers qui paraissent depuis... alors,
à cette époque-là,
oui, bien sûr, oui, il y a des papiers qui sont passés en interne, qui ont dû passer dans les unions départementales ou dans les structures locales des syndicats. Les gens étaient au courant, n'étaient pas forcément au courant du contenu, mais étaient au courant que ça se réécrivait et que ce n'était pas nécessairement positif pour les intérêts des travailleurs, quoi.
Que quand il y aura la partie législative, la partie réglementaire, comme ça, on peut éventuellement se revoir pour en reparler.
Ah oui, ouais, ouais, bien sûr, pour voir, parce qu'on aura d'autres éléments, voir ce que sont devenus bah, certains textes qui étaient avant dans la loi et qui maintenant sont passés dans les décrets. En espérant qu'elle soit restée dans les décrets, parce qu'on ne sait pas du tout. Moi, je suis incapable là, de le dire. Mais officiellement, l'histoire de ces déclassements, le but des recodificateurs, ils ont expliqué ces déclassements en disant « Oui, mais bon, il faut bien différencier ce qui est du domaine de la loi, donc du domaine parlementaire. Donc, en gros, la loi s'occupe des principes, et qu'après, tout ce qui est décret, c'est l'application. Donc, on ne revient pas sur les principes. » Et C'était leur opinion, hein, c'était leur vision. Hein. Ils disaient, il y a certaines parties d'articles présentes dans la loi qui, en fait, sont du domaine du décret, donc ça n'a rien à faire dans la loi, hop, on déclasse. C'était ça le raisonnement juridique qui était... Mais de quel droit ? Une mission de recodification et quelques experts, en gros le gouvernement, s'arroge le droit d'empiéter sur ce qu'avait fait le Parlement avant. En maintenant le Parlement à l'écart, lequel Parlement, je répète, a voté le résultat sans savoir ce qu'étaient devenus des articles qui avaient soit disparu ou qui étaient réécrits complètement ou auxquels on renvoyait à des décrets, lesquels décrets n'étaient pas encore écrits. C'est comme si ils avaient jugé que d'un œil au lieu d'avoir les deux.
Il y a des parties, comment ça s'appelle, des définitions bien précises de ce qui relève de la loi et de ce qui relève du...
Oui, dans la Constitution. La Constitution délimite précisément, de 58, hein, qu'on délimite précisément ce que fait le Parlement, sur quoi il légifère et sur quoi intervient ou est apte à intervenir le gouvernement. Donc c'est au nom de cette séparation-là qu'ont été déclassés des articles. Évidemment, le souci démocratique que ça pose, c'est que si le Parlement avait décidé que l'employeur devait garder pendant un an les documents de décompte des temps d'astreinte à disposition de l'inspection du travail, c'est pas au gouvernement actuel de dire que ça relève du règlement. C'est au Parlement lui-même d'en décider. Donc le Parlement a été mis complètement à l'écart de l'ensemble de ce processus. Hein. Conseil d'État. Je ne sais pas ce que ça a donné. Apparemment, ça a été rejeté. Le Conseil constitutionnel, lui, a rejeté, a validé complètement. Après, je ne sais pas, il y a plein d'exemples. Voici ce que j'ai peut-être dit. Mais tu vois, il y a plein de trucs. Par exemple, les règles de rupture des contrats de travail des journalistes sont passées de la loi en règlement, sont passées en décret. Donc modifiables à tout moment par le gouvernement, au lieu de passer par le Parlement. Voilà, c'est un autre exemple. Ouais, sur les prud'hommes remplacés par le judiciaire, ça je l'ai dit. Très bien, Alors, c'est pareil, il y a tout un tas de sanctions pénales qui n'apparaissent plus dans le code du travail. Par exemple, toutes les sanctions pénales en récidive ont disparu. Alors, évidemment, l'argument du gouvernement, c'est de dire aussi, ah, mais ça figure dans le code pénal, donc ça n'a pas disparu. Alors, bien sûr, sauf que quand c'était écrit dans le code du travail, ça avait quand même un sens. Et il y a quand même des choses, des sanctions pénales qui ont disparu, par exemple. Lorsque le dirigeant d'une entreprise étrangère, enfin non établie en France, ne déclare pas à l'inspection du travail le salarié étranger qu'il détache temporairement, il est obligé de faire une déclaration à l'inspection du travail. S'il ne le fait pas, c'est une contravention de quatrième classe. Bon, ben, ce texte-là, qui était dans la loi, a disparu. Donc on ne sait pas si on va le retrouver dans les décrets, par exemple. Donc c'est tout un tas de petites choses comme ça. Hein, par exemple aussi, a disparu l'obligation, en cas de visite de l'inspecteur du travail, l'obligation pour l'employeur d'informer les élus du CHSCT de la visite de l'inspecteur et de venir assister à la visite et éventuellement de faire des observations à l'inspecteur du travail. Cette obligation-là qui était faite à l'employeur a disparu. Tout un tas de petites choses comme ça. Oui, c'est les mêmes.
Et qu'est-ce qu'on peut peut-être donner je sais pas, des références aux gens, peut-être pour s'ils veulent s'informer un petit peu plus selon...
Alors, s'ils veulent s'informer un petit peu plus, il y a notamment le travail d'un ancien collègue qui a travaillé avec Gérard Filoche. Donc, le site de Gérard Filoche, c'est démocratie-socialisme.org, je crois. Enfin bon, si on tape Gérard Filoche, démocratie-socialisme, sur Google, on va le trouver très rapidement. Donc sur ce site-là, bon, il y a des contributions sur la recodification. Il y en a également sur certains sites de fédérations syndicales, hein, dont celle à laquelle j'appartiens, notamment la Fédération des sociétés d'études CGT, qui notamment a mis sur son site web le recours de la CGT au Conseil d'État, donc qui est intéressant à consulter, plus une analyse du juriste de la CGT Philippe Masson, qui a participé aux ces travaux de recodification, donc à titre de consultant donc syndical. Hein. Voilà, donc ça c'est les principales références. Après, bon, bah, il y a le texte lui-même, hein, l'édition Dalloz du nouveau code du travail. Maintenant, c'est le nouveau texte, donc à comparer avec des tables de correspondance si on veut s'amuser avec l'ancien code du travail. Après, il y a aussi d'autres contributions dans des revues spécialisées, donc dans droit social, dans les numéros de droit ouvrier. Il y a des articles de juristes qui sont parus là-dessus. Il y en a notamment une intéressante donc de Bernard Tessier, donc que l'on devrait retrouver aussi sur Internet. Alors, j'ai pas les coordonnées exactes, mais qui avait écrit donc dans les cahiers de l'AMI, donc une revue juridique, qui s'était fait interviewer sur la codification. Et lui, donc, qui est un professeur de droit à Assas, hein, et puis qui est pas réputé pour être un gauchiste, s'inquiétait aussi de cette recodification, surtout sous l'angle de la sécurité juridique. Qu'une réécriture, que cette réécriture-là plutôt posait. Ça pose des problèmes de sécurisation de la règle, de stabilité de la règle. C'est-à-dire que, avec tous les exemples qu'on a pris, on voit bien que le droit constant n'est pas respecté. Donc forcément, la règle a été touchée. Donc nécessairement, ça pose des difficultés d'application. Il va même jusqu'à parler de chaos et de gros dangers à ce niveau-là. Et on peut peut-être citer la phrase qui est assez célèbre, enfin qui est devenue maintenant célèbre à force d'être répétée, bon, par Filoche et par d'autres. On l'a aussi dans les articles de l'universitaire Christophe Radet, donc qui est l'expert qui a participé aux travaux de recodification. Alors évidemment, c'est dans le nouveau code. Donc il a écrit. Alors bon, lui aussi est un défenseur. Hein, il explique à qui veut l'entendre que c'est du droit constant, qu'on n'a pas touché, qu'on a fait un travail qui reste neutre et technique, qu'on n'a pas touché au sens de la règle. Mais pourtant, dans la préface du Dalloz, il écrit. Il est aujourd'hui trop tôt pour déterminer l'impact de cette recodification sur le droit du travail. Même si on peut raisonnablement penser que dans l'immense majorité des cas, la réécriture de certaines dispositions jugées obsolètes, la scission des articles les plus volumineux et le regroupement des dispositions jusque-là éparses ne devraient pas modifier leur interprétation, néanmoins, plusieurs mois, voire plusieurs années, seront sans doute nécessaires pour que ce nouveau code révèle tous ses secrets. L'effort demandé aux usagers du nouveau code du travail est à la hauteur de l'œuvre réalisée, deux points colossales. Voilà ce qu'il écrit, donc ça montre bien quand même qu'il est quand même conscient qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Mais en même temps, il le dit bien, il résume bien. Alors, c'est peut-être une phrase malheureuse et j'ai l'impression qu'il s'en veut d'avoir dit ça parce que tout le monde lui ressort maintenant cette phrase-là, mais elle résume extrêmement bien l'œuvre qui a été faite de recodification. Hein. C'est vraiment c'est un outil qui va permettre de déployer tout un ensemble de règles et de lois régressives.
C'est vrai que le fait qu'un code législatif puisse avoir des secrets.
Voilà, c'est voilà. Le mot secret, lui a visiblement. Enfin, je pense qu'il regrette de l'avoir dit. Mais bon, il s'est un peu trahi et c'est une phrase qui résume extrêmement bien le sens de cette codification. Non, c'est un éditeur. C'est un éditeur.
Et ça, c'est l'introduction de l'éditeur.
Voilà, c'est parce que c'est lui qui dirige l'édition d'Alloz. C'est pour ça. Hein, en 2007, depuis plusieurs années, tu vois, annotation, machin, Christophe Radet. Donc c'est lui qui dirige toute la publication du code, quoi, pour les éditions d'Alloz. Et lui non plus, c'est pas un gauchiste. Hein.
Bon,
c'était, ouais, ça va?
Bah,
ça a été.